la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13. Le PowerPoint s'affiche, merci beaucoup. Et le but de mon message ce matin, comme je vous l'avais annoncé, c'est avant que le frère n'intervienne et vous montre ce qui se passe, vous avez aussi les uns et les autres régulièrement des nouvelles, peut-être par vos propres réseaux ou par des revues spécifiques. Et vous savez que certains, quand on dit que nos frères et sœurs payent le prix fort, extrêmement élevé, par amour, parce que c'est par amour et par fidélité au nom de Jésus dans ce monde, on sait très bien que oui, la question de la persécution peut être rebutante, parfois même choquante, et qu'elle peut aussi vraiment heurter et amener vraiment des difficultés de compréhension en nous. Et c'est très important, on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble avec Christian dans des cultes, j'ai eu la joie de l'avoir deux fois sur Manosque, ici c'est la première fois qu'il vient vous voir, mais on se connaît et on était d'accord que d'abord je considère avec vous la question de la persécution à la lumière des Écritures, et que l'on comprenne la persécution, ce qui se passe, comment, pourquoi. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, juste pour introduction, l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, on ne sait pas son nom, déclare « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, notez bien que ce sont des impératifs, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. » Lorsque l'apôtre Paul lui-même se trouvera aussi en prison à Rome, de là il écrira Philippiens, Colossiens, Éphésiens, et dans sa captivité, dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul dit « souvenez-vous de mes liens, parce que c'est pour le nom de Christ que je suis enchaîné. » C'est bien plus, je pense, bien plus qu'une commémoration, c'est bien plus qu'un devoir de mémoire. Nous abordons la question de la persécution avec cette réalité intérieure de cœur que nous sommes membres d'un corps. Nous sommes le même membre, les membres différents, mais du même corps. Nous sommes le corps de Christ. Et que ce soit auprès ou que ce soit au loin, ce n'est pas parce que des bien-aimés sont loin, loin de nous, loin de nos yeux. On dit dans ce monde, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais dans la Bible, ça ne marche pas. Loin des yeux peut-être, mais pas loin du cœur, parce que nous sommes, étant membres du même corps, unis par le même lien, du même esprit, nous sommes logiquement, sérieusement concernés par la question de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Donc c'est bien plus qu'un devoir de mémoire, c'est bien plus qu'un soutien spirituel ponctuel ou matériel ponctuel. Et je voudrais voir avec vous ce matin, déjà, la question de la persécution à la lumière de l'Écriture. Nous ne pouvons pas aborder sereinement et en paix l'idée que des frères et sœurs sont torturés pour le nom de Jésus, qu'ils sont soit en prison, soit privés de leurs biens, soit exécutés pour le nom de Jésus, sans avoir déjà comme socle, comme fondement dans nos cœurs, c'est pas une parole pour une parole, cette révélation de Jésus dans nos cœurs. Jésus dit « je bâtirai mon Église » et c'est Jésus qui en est le constructeur, il en est l'architecte, il l'a conçu, pensé, voulu ainsi, et c'est lui qui en est le garant, et c'est lui qui en est le constructeur par le Saint-Esprit. Et comme on le disait encore tout à l'heure avec Christian, avec beaucoup d'admiration, au travers de simples outils que nous sommes, le Seigneur nous rend participants à ce miracle extraordinaire qu'est l'Église sur la terre. Une ferme assurance dans nos cœurs pour ne pas être déstabilisés à la lumière de ce que nous voyons, lisons ou entendons. Jésus dit « Je bâtirai mon Église » et il fait cette promesse. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer lui-même, il s'agit ici d'un déchaînement, littéralement un déchaînement des forces sataniques, un déchaînement de l'enfer contre l'Église de Jésus, Matthieu 16, 18. Et Jésus le dit ainsi, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Ces portes dans la pensée originale, dans l'original grec, ces portes qui étaient dans les villes, étaient des portes de très grande dimension. Et c'était à ces portes que les autorités de la ville, qu'on venait et on discutait à ces portes, et c'était à ces portes que l'on établissait des stratégies. C'était là que l'on formatait des plans, que l'on formait, pardon, des plans, que l'on prenait des décisions, que l'on élaborait des stratégies. Et ces portes sont symboles, non seulement de stratégie, sont symboles d'autorité. Les portes du séjour des morts désignent la puissance et l'autorité de l'enfer. Et Jésus dit, pareil toujours dans cet original, prévaloir, ça signifie être supérieur en force. Jésus dit, c'est sa promesse, quoi qu'il arrive dans ce monde à mon église, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que je revienne, quoi qu'il arrive dans ce monde à mon église, jusqu'à ce que je revienne, l'enfer ne sera jamais supérieur en force. C'est la promesse de Jésus. Et jamais il ne pourra vaincre. D'autres traductions de Bible ont rendu ainsi, parole de vie et parole vivante, excellente traduction au passage. La puissance de la mort, dit cette première version, et la puissance, Jésus dit, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra jamais rien contre elle. Je bâtirai mon église, et, autre traduction, aucun ennemi ne pourra la détruire. Comprenons ce qui se passe spirituellement en termes de persécution. Il faut bien comprendre que la première chose, c'est que les frères et sœurs qui, je le redis, c'est par amour, et là c'est vraiment un amour avec un A majuscule, c'est un amour passionnel, ils ont un feu dans le cœur pour le nom de Jésus qui n'est produit que par le Saint-Esprit, que par la dunamis de Dieu évidemment. Il faut bien comprendre que ces bien-aimés ont conscience qu'ils sont sur le chemin de leur maître. D'où vient la persécution? Oui, un déchaînement de l'enfer. Il faut comprendre que la persécution, c'est déjà le chemin du maître. Alors, Jésus n'est pas le premier persécuté. Jésus est le persécuté par excellence. Mais il n'est pas le premier persécuté. La persécution ne commence pas avec Jésus. La persécution commence dans le livre de la Genèse. Lorsque Caïn, le type du religieux, a tué son frère Abel, qui est un type de la grâce de Dieu. Quand Caïn a tué Abel, c'est là déjà dans la Genèse que se trouve l'origine, en vérité, de la persécution. Mais Jésus, lui, n'est pas le premier persécuté, mais on sait qu'il est effectivement le persécuté par excellence. C'est lui le persécuté. Jésus dit bien, et il est aussi la cause de ce fait, parce que Jésus a été clair. Un disciple ne pourra jamais suivre un autre chemin que celui de son maître. Et s'il y a des moments dans la vie des actes des apôtres, et depuis les actes des apôtres jusqu'à maintenant, s'il y a des moments de gloire, s'il y a des miracles, s'il se passe des choses extraordinaires, regardez bien le livre des actes des apôtres. Il n'y a pas que des miracles. Il y a un prix que des hommes et des femmes, par passion, par la puissance du Saint-Esprit, ont accepté de payer. Et Jésus dit bien, si on a fait ces choses, la persécution dans le contexte, si on a fait ces choses au bois tendre, et le bois tendre c'est lui, imaginez ce que l'on fera au bois sec. Le bois sec c'est nous. Un disciple ne peut pas suivre un autre chemin que celui de son maître. Et ici dans Jean chapitre 15, je lis simplement pour vous, je ne vous fais pas chercher, les références sont sur le PowerPoint, on va laisser un maximum de temps aux frères, mais Jésus a été très clair. Et là, il se présente comme la cause de toutes les persécutions. Si le monde vous hait, et le terme est clair, dans ce monde, il y a de la haine d'une façon ou d'une autre contre les chrétiens. Parce que l'évangile, le fait d'être disciple de Jésus, c'est pas être religieux. c'est pas fréquenter une église, c'est pas s'asseoir fidèlement à des réunions, c'est pas donner de l'argent, être disciple de Jésus, c'est pas adhérer à une institution, à des istes. Est-ce que j'appartiens à tel ou tel ou tel mouvement? Être disciple de Jésus, c'est par la nouvelle naissance, être entré dans un mode de vie à contre-courant, une série de principes de vie dans lesquels je progresse et je suis en vérité à contre-courant des principes de ce monde. Eux, ils descendent. Quand vous regardez une rivière, vous vous apercevez que les poissons qui sont vivants, ils remontent toujours le courant. Les autres sont des poissons morts, ils vont dans le sens du courant. Et à partir du moment où nous avons été régénérés, où nous sommes nés de nouveau par la puissance de la parole et du Saint-Esprit, nous avons une vie de disciple. Et cette vie de disciple nous amène à vivre une vie à contre-courant. Et puisqu'il y a une vie à contre-courant, c'est normal qu'il y ait des heurts, parce que ce que je suis aujourd'hui, pas par moi-même, mais par la grâce de Dieu, ce que je suis provoque des réactions en face. Parce que ce que je suis, même si par moments je ne parle pas, ce que je suis, l'esprit qui est en moi, dérange et leur rappelle ce qu'ils ne sont pas et qu'ils sont des poissons morts et qu'ils sont en train de descendre dans le mauvais sens. Mais bien aimé, avant de parler, avant de témoigner, vivons. Si nous vivons, nous n'agissons, nous ne faisons pas les disciples. Nous sommes disciples. Et si notre façon d'être n'interpelle pas, peut-être devons-nous revoir notre définition du discipulat. Jésus a été clair. Le monde m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il vous haïra aussi. Si vous étiez du monde, dit Jésus, il vous aimerait. Le monde n'aime-t-il pas ce qui est à lui? Mais parce que vous n'êtes plus du monde, vous n'appartenez plus à ce royaume, parce que vous n'êtes plus de ce monde, alors le monde vous hait. Et Jésus dit clairement, clipsis, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, et ils vous feront toutes ces choses, verset 21 de Jean 15, ils vous feront toutes ces choses à cause de moi, à cause de mon nom. Ça, je crois que les frères et sœurs persécutés, mais nous aussi on doit le comprendre, je pense qu'ils comprennent très bien qu'ils sont sur un chemin de gloire, pas une gloire au sens où on l'entend humainement parlant, mais sur un chemin spécifique qui est le chemin de leur maître, Jésus, le seul sauveur et le seul Seigneur. Et puis ensuite, même si la persécution existait déjà dans l'Ancien Testament, Jésus dit bien, ah toi Jérusalem qui tue et qui lapide les prophètes que je lui ai envoyés, la persécution existait dans l'Ancien Testament depuis la Genèse. À partir du livre des Actes des Apôtres, Jésus étant le persécuté par excellence, peut-être vous vous souvenez que, je ne l'ai pas dit, peut-être vous vous souvenez que dès sa naissance, la vie de Jésus est marquée par le rejet et le désir de le faire mourir. Dès sa naissance, Hérode cherche à faire mourir Jésus. Et puis ça devient de plus en plus évident dans les évangiles. On est toujours en train de trouver une occasion d'accuser Jésus. Et comme on ne trouve rien, il y aura forcément cette mascarade de procès avec des faux témoins qui sont payés pour pouvoir accuser Jésus d'une façon ou d'une autre, parce que le but est de le faire mourir. Et bien sûr, c'est flagrant dans les évangiles, c'est flagrant aussi tout de suite après la Pentecôte. Et là, la persécution, ce n'est pas qu'elle arrive, c'est qu'évidemment, elle va commencer à s'intensifier. Parce qu'après la Pentecôte, vous le savez, c'est la naissance de l'Église. Et là, le feu qui vraiment embrase les disciples, les 120 à la chambre haute, ce feu qui embrase, lorsque l'enfer voit ça, déjà il a perdu à la croix. Et Jésus est descendu dans les profondeurs du séjour des morts pour témoigner aux esprits en prison. Et au moment où Jésus est mort, des tombeaux se sont ouverts, des morts sont sortis, ont marché dans les rues. Et à partir de ce moment-là, il tient dans sa main, alléluia, la clé de la mort et du séjour des morts. Je vous en reparlerai mardi, on fera une réunion spécifique sur la prière, l'Église persécutée, pour une continuité de ce que Christian va dire aujourd'hui. Mais mardi, on parlera de l'église de Smyrne. qui est un type de l'Église persécutée. Et Jésus se présente à elle comme ayant dans sa main, depuis sa résurrection, parce qu'il a dépouillé l'enfer, il a dans sa main la clé de la mort et du séjour des morts. Et l'enfer le sait, et il voit en plus que les disciples qui jusqu'à présent avec Jésus étaient bien gentils, mais pardon, ils étaient nuls, pardon, ils étaient à la ramasse. Et à partir du moment où ils sont remplis du Saint-Esprit, un boulevard de possibilités et de puissance s'ouvre devant eux. Le diable n'a pas réussi à faire chuter Jésus dans le désert, il n'a pas réussi à le dissuader d'aller à la croix, et en plus il n'a pas réussi à l'empêcher de remplir ses disciples du Saint-Esprit pour qu'ils deviennent de véritables chrétiens et qu'ils, comme Jésus l'avait promis, il continue, acte chapitre 1er, qu'il continue son enseignement et ses œuvres. Et là, voyant cette puissance qui est déversée, l'enfer se sachant menacé plus que jamais, va se déchaîner contre l'Église. Et cette réalité apparaît tout de suite après la Pentecôte. L'intensification de la persécution est évidente. Acte 4, Pierre et Jean sont arrêtés. Après que le boiteux à la porte du temple nommé Labelle soit guéri, tout de suite, on ne va pas les louer pour un miracle. On va leur demander ce que c'est que cette histoire, on les arrête. Ils vont passer une nuit en garde à vue et puis on va les menacer. Mais c'est plus fort qu'eux. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas m'empêcher de parler de ce Jésus. Je le fais avec sagesse, mais personne ne peut m'empêcher d'en parler. Et ensuite, ils seront de nouveau arrêtés, mais cette fois-ci, on va intensifier. Et cette fois-ci, ce ne sera pas des menaces, mais on va les battre. Acte 5, 40. Et puis ensuite, il y a la lapidation d'Étienne. Acte 7, on voit un processus qui s'intensifie dans la persécution. Saul de Tarse, qui n'est pas encore converti, est là. Et il y a, dans ces procès de l'époque, il y a des cailloux blancs, et il y a des cailloux noirs. Et Saul de Tarse est là. Il sort le caillou noir quand les juifs, les chefs religieux, la foule est déchaînée contre Étienne. Il sort le caillou noir comme verdict de la mort qui doit s'abattre sur Étienne. Et Étienne, acte 7, sera lapidé. Après, acte 9, avant la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, nous avons aussi ces phrases. Saul était arrivé à un point, il est dit de lui qu'il respirait la menace et le meurtre. Il portait sur lui cette atmosphère de mort et de haine, de déchaînement, de déferlement contre les disciples de Jésus. Acte 12, Jacques, le frère de Jean, dans sa prison. Pierre est en prison, Jacques est en prison. Par la grâce de Dieu, Pierre va sortir. Il va être miraculeusement libéré par un ange. Mais Jacques est exécuté, il passe au fil de l'épée. Le frère de Jean meurt en acte 12, etc. Et plus tard, l'apôtre Paul, prenant conscience sur le chemin de Damas, il avait dit « Qui es-tu ? Qui es-tu ? Que veux-tu que je fasse ? Saul, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. » Et plus tard, l'apôtre Paul dit « Je suis l'avorton, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus. » Mais quel revirement de situation ! On en parlera mardi, ça c'est un beau sujet de prière. Que des persécuteurs trouvent le Christ dans leur folie. Ça, c'est un excellent sujet de prière, parce que Jésus les aime. Il n'aime pas que nos frères persécutés, il aime les persécuteurs. Et Saul en est la meilleure preuve dans l'Écriture. Et puis, deux autres points, nous n'oublions pas que quand le Seigneur dit, frères et sœurs, quand le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, quand il dit vos voies, V-O-I-E-S, vos façons, vos voies, vos méthodes, vos conceptions, vos voies ne sont pas mes voies. Votre conception, j'élargis, votre conception de ce qui est normal n'est pas ma conception de ce qui est normal. Vos conceptions de ce qui est glorieux n'est pas ma conception de ce qui est glorieux. Et dans cela, on voit que le Seigneur, lui, n'a jamais détruit Satan. Mais il s'en sert. Et ça, c'est flagrant, c'est un fil rouge qui traverse toute l'Écriture. La façon dont Dieu va faire en sorte que le diable fasse une œuvre qui le trompe et va retourner ses plans contre lui. Exemple, acte, toujours dans le livre des actes, acte chapitre 8, la persécution s'intensifie, l'enfer est déchaîné. Et alors que le diable, lui, s'imagine qu'il va pouvoir tout arrêter, c'est comme si, voyant ce brasier, ce feu, Il souffle dessus. L'enfer souffle de toutes ses forces pour éteindre ce feu du Saint-Esprit qui menace son royaume. Mais il fait une œuvre qui le trompe. Pensant éteindre le feu, il n'a fait que, par la persécution, il n'a fait que disperser les braises. Et toutes les flammes qui étaient concentrées à Jérusalem au même endroit, par la persécution, se sont trouvées dispersées sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et les disciples étaient tellement remplis du Saint-Esprit, comme dit Paul aux Philippiens, non seulement ils n'ont pas arrêté de porter le nom de Jésus, mais en plus, Paul dit, certains, ayant vu mes propres liens et m'ayant vu en prison, ont plus d'assurance maintenant pour porter la parole. Et au lieu de tout éteindre, eh bien, le message s'est répandu encore plus vite. Le diable a fait une œuvre qui le trompait et il fait sans cesse une œuvre qui le trompe. Jésus, à l'heure de la croix, recentre tout sur la souveraineté de Dieu. Il dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ça ne t'avait été permis d'en haut. Maintenant, ce que tu as à faire, fais-le. Il ne le savait pas, mais il était, Pilate, malgré lui, l'outil dans l'accomplissement d'un plan de salut extraordinaire dont nous sommes les bénéficiaires. Oui, Jésus a souffert, mais il y a une postérité, gloire à son nom. Et c'est encore comme ça pour nos frères persécutés. Daniel devant Nebuchadnezzar repositionne tout sur la souveraineté de Dieu. L'ennemi est toujours sur son contrôle. Pharaon a opprimé le peuple de Dieu. Pharaon, avec ses chars, poursuit le peuple. Ils sont coincés entre la mer Rouge et la nuée. Toute une nuit, Dieu fait souffler un vent impétueux. Ils sont dans une panique générale, dans une panique totale. Et Dieu dit à Moïse, « Dis à mon peuple de garder le silence, de ne pas avoir peur. » Parce que Pharaon, et Pharaon est un type du diable dans la parole, c'est un type de l'ennemi. Pharaon et toute son armée me serviront pour faire éclater ma gloire. Et tout est toujours dans cette perspective de Dieu, tout est toujours sous son contrôle. Les textes sont clairs et sont nombreux dans ce sens-là, dans la parole. Jésus a promis aussi, 1 Corinthiens, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ici Apocalypse 2, on en reparlera mardi, le Seigneur a toujours fixé l'intensité de l'épreuve et la longueur de l'épreuve. Et il a toujours promis, je connais chacun de mes brebis mieux qu'elles-mêmes et ce sera jamais au-delà de leur force. Et c'est ce qui me donne aussi, devant cette pédagogie, cette sagesse de Dieu, devant aussi cette capacité qu'il a de tout gérer, même l'enfer, de gérer l'enfer au millimètre près, je n'ai pas à avoir peur, parce que je sais que jamais l'Esprit de Dieu ne permettra des situations qui seront au-delà de mes possibilités. Et quand des frères et sœurs sont persécutés, ils le sont vraiment, sérieusement et violemment, le Seigneur leur a déjà donné à ces héros de la foi, à ces champions de Dieu, ce sont des champions de Dieu, des champions pour Dieu, il leur a donné ce qui était nécessaire et il a tout mesuré. Et à l'église de Smyrne, ce qui est fou, c'est que Jésus lui-même, Smyrne c'est la deuxième église sur les sept dans la fin des temps, et que Jésus et l'église de Smyrne n'a jamais été autant d'actualité que maintenant, c'est que c'est Jésus lui-même. Il ne découvre pas la persécution, elle ne leur tombe pas dessus. C'est Jésus qui leur dit, je sais ce que tu as déjà souffert pour mon nom, mais prends courage, parce qu'une autre tribulation t'attend. Une tribulation de 10 jours, peut-être pas 10 jours à prendre au sens littéral, il y a autre chose. Mais Jésus fixe, il montre qu'il maîtrise tout et qu'il fixe un délai. Je sais que tu as déjà souffert pour mon nom, mais un autre temps de tribulation vient pour 10 jours où tu vas encore souffrir pour mon nom. Et ce qui est fou, c'est que c'est Jésus qui leur dit, vous allez souffrir pour mon nom. Et Jésus ne leur dit pas, je vais faire ce que je peux pour que ça se fasse, que ça n'arrive pas. Jésus leur dit, ça va vous arriver. Mais comme ça, vous allez me glorifier et vous allez entrer dans des voies et dans des chemins, dans une dimension d'esprit que vous ne soupçonnez même pas encore. Parce que vous savez, frères et sœurs, la vraie question dans notre Occident, à mon sens, humblement, n'est pas de savoir si un jour nous serons persécutés ou pas. La persécution, elle peut prendre différentes formes et je vous garantis qu'elle arrive de différentes façons, pas au sens où vous allez l'entendre, mais des formes de persécution, il y en existe plein. Christian va vous l'expliquer. Mais je peux vous garantir que la vraie question, dans les temps qui viennent, dans les temps de la fin, en Occident, en France, en Europe, c'est pas est-ce qu'on va être persécuté ? Non. La vraie question, c'est est-ce qu'on va être authentiquement rempli du Saint-Esprit ? C'est ça la vraie question. Et puis, je termine avec ça. Oui, facette surprenante d'un Dieu qui permet, ce n'est pas qu'il laisse faire, mais il permet parce qu'il a des objectifs différents des nôtres et il forge, il façonne ces gens-là. Moi, je les ai toujours vus comme ça, nos frères et sœurs persécutés. Je les considère toujours comme ça. D'ailleurs, ils ont leur chapitre. Enfin, leur chapitre, ils ont leur passage. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 38. Ils ont leur passage. Et ces frères et sœurs, pour moi, je les ai toujours vus comme ça. Ce sont de véritables héros. Ce sont des héros de la foi. Ce sont les champions de Dieu, des champions pour Dieu. Et Dieu leur donne, le Seigneur leur donne une sagesse, des mots, une inspiration, des ressources extraordinaires, au point que Marc 13, le Seigneur leur dit à ses disciples, il n'a pas dit peut-être un jour on vous arrêtera et vous irez devant les tribunaux. Non, il a dit quand on vous arrêtera, quand on vous livrera aux tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous répondrez. Parce que ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même par la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de mon Père au travers de vous. Et puis ce tout dernier point, c'est un signe évidemment, c'est un signe de la fin des temps. Pardon. Est-ce que tu... Si j'ai perdu la main, tu peux mettre l'image, la dernière image, merci. C'est un signe de la fin du temps. Il faut bien comprendre que, c'est vrai, la persécution a toujours existé, mais en réalité, elle s'intensifie, elle augmente. Quand on considère les rapports des œuvres, des organismes qui œuvrent en faveur des frères et sœurs persécutés, on s'aperçoit, chaque année, les rapporteurs sur le terrain disent « Nous avons eu encore une année record. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde sous différentes formes que en 2020 et en 2021 et en 2022 et en 2023 et en 2024 et en 2025. » Et la persécution ne se calme pas, mais bien au contraire, on sait qu'elle va grandissante parce que elle est liée à la venue de Jésus. Plus l'heure du retour de Jésus s'approche, plus la persécution s'intensifie. Elle est liée, en fait, elle est la conséquence de la propagation mondiale de l'Évangile. Et quand on considère, frères et sœurs, l'histoire des... Je ne parle pas des religieux, je parle des disciples de Jésus, de ceux qui sont authentiquement sur la surface de cette planète, nés de nouveau par la parole et le Saint-Esprit, et qui sont authentiquement remplis de l'Esprit, quand on considère ça, on s'aperçoit que même dans les 2000 dernières années depuis la Pentecôte, il n'y a jamais eu aujourd'hui, je sais qu'en France ça ne bouge pas des masses, mais il faut vraiment regarder ce qui se passe ailleurs. Et je vous garantis qu'il n'y a jamais eu, en 2000 ans d'histoire, autant de personnes nées de nouveau et authentiquement remplies du Saint-Esprit que dans les 40 dernières années. L'église de Jésus, pas la religieuse, pas l'église de Laodicée, la vraie église, celle de Jésus, celle qui porte son nom et qui tient ferme, n'a jamais autant progressé. Elle a progressé le plus en 40 ans qu'en 2000 ans. Et c'est normal, les portes s'ouvrent via Internet, via les missionnaires, de plus en plus de peuples, de nations, de dialectes. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, alors qu'il existe environ 3000 langues et dialectes sur la terre, la Bible n'est traduite qu'en 2000 langues. Il en manque encore environ 1000. On peut prier pour qu'il y ait des traducteurs. Et Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera propagée, elle sera annoncée au monde entier. Et plus on progresse vers cette finalité que Jésus avait annoncée, plus il y a effectivement un déchaînement envers l'église de Jésus. Et la persécution, c'est pour ça aussi qu'elle va grandissante, parce qu'elle est liée, c'est une augmentation constante, merci beaucoup, et elle est liée à la propagation mondiale de l'Évangile. Cette bonne nouvelle a promis Jésus, Matthieu 24, Marc 13, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Voilà. Amen. Il est 10h30, on va te laisser toute la place à notre frère Christian. Je vais demander aux frères de bien vouloir éteindre les lumières pour que la vidéo n'en soit que plus évidente. Merci aux frères de bien vouloir aussi éteindre notre vidéoprojecteur. Et puis...